Vous êtes bien sûr Chanson Festival Radio, la radio de Vigan, une émission réalisée par les collégiens du collège André Chanson.
Bonjour à tous et bienvenue sur Chanson Fessard Radio dans notre première émission. Nous sommes présents aujourd'hui Camille, Eulalie, Léo, Kylian, Romain, Martin, Emma et Lila.
Bonjour, je m'appelle Camille et je serai l'animatrice principale avec Guillaume. Cette émission va être divisée en trois parties. La première partie aura comme sujet la science-fiction. La deuxième, nous parlerons de documentaires.
Il y aura aussi en troisième un sujet de la littérature et en dernier un sur les tatouages. Bonne écoute.
Vous êtes toujours sur Chanson Fessard Radio.
Nous allons commencer par Eulalie qui parlera des costumes dans Harry Potter, puis Guillaume parlera du film Dune.
Salut. Je suis très heureuse de me retrouver à nouveau derrière le micro pour parler de tout et surtout d'art. Mais l'habitude se perd rapidement et je n'avais aucune idée pour cette chronique. Ou bien j'en avais un peu trop, en fait. Bref. J'ai réussi à trouver mon thème grâce à la lecture. On a chaque année une chronique sur Harry Potter et je ne vais pas m'en plaindre car je suis moi-même fan de cette œuvre. Mais étrangement, je n'avais jamais réfléchi à parler d'Harry Potter dans mes chroniques, sûrement parce que je ne trouvais pas le rapport entre la mode et cette œuvre extraordinaire. Ça me paraît si flagrant maintenant. Les films sont remplis de costumes et d'accessoires, tous magnifiques, et il y a tellement à raconter sur les coulisses de ces 8 films. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je vais rendre hommage à toutes ces costumières et costumiers qui sont restés dans l'ombre. Pour les 8 films, 3 costumières en chef se sont relayées, accompagnées de dizaines de couturiers, couturières et stylistes. Pour le premier film, c'est Judiana Makovsk qui s'en est chargée. Pour le deuxième, il s'agit de Lindy Hemming et enfin Jani Temim, a assuré son poste jusqu'à la fin de la saga. Oui, j'ai sûrement écorché leur nom, je m'excuse. Maintenant que je vous les ai présentés, je vais vous raconter leurs méthodes et les histoires se cachant derrière leur travail. Pour adapter cette saga, déjà à succès au grand écran, Judiana Makovsk, paix à son nom, a dû poser les bases de tout cet univers complexe le plus simplement possible. Ces bases ont d'ailleurs su être conservées malgré le changement de scénariste et de costumière, ce qui a eu pour effet de garder un fil artistique dans toute l'œuvre. Pour commencer, les vêtements de civil ont été choisis le plus sobre possible et sans marque visible, ce qui était pourtant la mode dans les années 2000, pour une raison très simple. Judiana avait déjà conscience que ses films allaient être une grande histoire qui deviendrait culte et que pour cela, elle devait être indémodable. Ensuite, on peut noter que dans les livres, on ne précise à aucun moment que les élèves de Poudlard possèdent un uniforme. C'est encore Judiana qui en a eu l'idée pour rendre plus accessible l'école des sorciers aux yeux des jeunes écoliers possédant eux-mêmes un uniforme. Les professeurs, eux par contre, avaient un traitement de privilégiés, car pour asseoir chacun de leurs caractères, il leur fallait des costumes parlant d'eux-mêmes. Comme McGonagall avec ses motifs écossais, Lockhart avec ses tenues tape à l'œil, Trelawney avec ses châles et ses colliers de perles, ou encore Lupin avec ses vêtements rapiécés. Les élèves, eux, n'ont presque aucune différence dans leurs vêtements, à part Neville qui oublie tout le temps sa cape ou ses gants. Dans un autre style, c'est Emma Watson, l'interprète d'Hermione Granger, qui jusqu'au quatrième film aura toujours des tenues très sobres en ne mettant jamais son physique en avant. Déjà parce que c'est une adolescente et que c'est glauque, et ensuite parce que son rôle c'est d'être la première de la classe, pas de faire tourner les têtes, à part celle de Ron. Ainsi, quand vient la scène du bal, Emma joue sa première interaction avec sa propre féminité, et c'est la première fois que tout le monde a les yeux rivés sur elle. Elle en est tellement bouleversée qu'Emma s'en mêle les pieds et tombe dans l'escalier. Il a donc fallu refaire cette prise sous les rires des membres de l'équipe. Heureusement, la robe est intacte, ainsi qu'Emma, évidemment. Comme le savent déjà tous les lecteurs, la robe décrite dans les livres n'est pas celle qu'on voit dans les films. Même si je sais que beaucoup en ont été bouleversés, il y a plein de raisons qui ont joué en cette faveur. Pour ceux qui seraient passés à côté de cela, dans les livres, sa robe est décrite en bleu, pas rose ou violette. Oui, c'est juste une question de couleur. Mais au cinéma, chaque couleur d'un décor ou d'un vêtement a une signification. Déjà, le bal étant sur le thème de l'hiver, toute la décoration était dans les tons bleus. Emma se serait alors fondue dans la masse au lieu d'en ressortir. Ensuite, le bleu était déjà la couleur des serres d'aigle à Poudlard, et avec l'arrivée des élèves de Beaubaton, cette couleur était déjà surreprésentée. Et la dernière raison est simplement que le bleu ne va pas très bien au teint de l'actrice. Ils ont donc choisi de la représenter en rose, symbole de la féminité qui sommeille en elle. Dans le même film, un autre problème s'est opposé à la costumière. Et il est si banal que cela en devient humoristique. Je parle de la scène du lac noir, lorsqu'Harry mange la branchiflore pour pouvoir respirer sous l'eau. Il subit alors une transformation, lui faisant pousser des branchies et des nageoires aux mains et aux pieds. Bref, c'est magique. Mais pour l'adapter au cinéma, c'est plus compliqué. Janine Temimé testera alors toutes sortes de matières différentes pour donner les meilleurs rendus sous l'eau, en vain. C'est en marchant dans les rues de Londres qu'elle croise le chemin d'une jeune femme, lavant des souliers dans un seau. Janine va s'arrêter et trouver la solution à son problème. En effet, pour laver ses souliers, cette charmante inconnue avait enfilé des collants de nylon sur ses mains, lui donnant alors l'air d'avoir des mains palmées. Tout de suite, cette idée est testée et approuvée. Daniel Radcliffe porte alors sur ses mains des bas en nylon. Je suis sûre que vous ne verrez cette scène différemment à présent. Parlons maintenant de la journaliste Rita Skeeter. Je ne vais pas m'attarder longtemps sur elle, et ce pour une raison. Simple, je ne l'aime pas. C'est une raison suffisante. Donc, Rita Skeeter, horrible journaliste déformant tous les propos qu'elle entend, est décrite dans les livres avec des tenues plus affreuses les unes que les autres. Et en ça, les films lui ont rendu honneur. Mais sa tenue principale reste évidemment sa robe en satin verte. Elle a été choisie comme clin d'œil à son animagus, un scarabée. J'avoue qu'une fois qu'on le sait, on ne peut plus s'empêcher de ne la voir que comme un gros insecte répugnant. Enfin, c'est mon avis. Dans un autre type de méchant, que je trouve bien plus intéressant que cette pimbèche, voici l'heure de parler des costumes de Voldemort et de ses fidèles, les Mangemorts. En faisant des recherches, je suis tombée sur une photo montrant la première robe dans laquelle on voit Voldemort et la dernière. La différence était choquante. Sa première tenue, et vous vous en souvenez sûrement, sa robe est d'un noir de jais et extrêmement longue. Ce que vous avez peut-être moins remarqué est que sa dernière tenue est à l'inverse bien plus courte et d'un gris presque blanc. Ceci s'explique simplement par le noir symbolisant son apogée, son pouvoir renaissant. Quand cette robe apparaît grise, cela symbolise qu'elle s'est détériorée au fil du temps, comme son pouvoir. On remarque la même évolution sur tous les costumes des personnages étant passés par Azkaban. Nous allons maintenant clore cette chronique sur un détail un peu plus gai. Aviez-vous remarqué que sur le buste de la robe de mariée de Fleur de la Cour, deux phénix sont représentés en noir sur fond blanc ? Ils symbolisent l'état du monde des sorciers à cette époque, qui brûle pour mieux renaître de ses cendres. Merci de m'avoir écouté.
Merci Eulalie d'avoir partagé cette chronique avec nous.
Vous êtes toujours sur Chanson fait ça radio.
C'est à Guillaume de nous emmener dans l'univers de Dune.
Bonjour, je voudrais parler du film Dune, version 2021, qui est un film d'aventure. Ce thriller est une nouvelle adaptation d'un livre de Frank Herbert. Je vais vous raconter une histoire qui va changer votre vie. En l'an 10191, un empereur du nom de Shaddam IV, qui dirige l'univers, fait alliance avec la famille des Harkonnen de la planète Jedi Prime. Son objectif, est d'éradiquer les Artéides, le duc Luto de la planète Caladan, et sa famille. Pour y arriver, il les envoie sur la planète Arrakis, aussi appelée Dune, où les Harkonnen doivent les tuer. Le personnage principal s'appelle Paul Arteid, un jeune garçon joué par l'acteur Timothée Chalamet. Son père s'appelle Leto Arteid et sa mère s'appelle Alia Arteid. Il y a aussi une sorte de clan appelé Freemen qui vit sur Arrakis, planète de sable et des déserts. Les Freemen ont pour particularité d'avoir les yeux totalement bleus. Ils ont aussi une façon de marcher efficace contre les vers de sable. Les vers de sable sont des bêtes de 400 mètres de long qui réagissent et attaquent, les bruits réguliers. La frimaine la plus importante est Shani. Elle est présente dans les rêves de Paul. Il y a aussi des ornicoptères qui sont des hélicoptères avec 4 ailes au lieu d'une hélice. Des genres de moissonneuses-batteuses en forme de bloc et des vaisseaux spatiaux. J'ai bien aimé ce film car il ressemble à la saga Star Wars et qu'il y a beaucoup de péripéties et de bagarres. Il est très futuriste. J'en ai fini avec cette chronique et j'espère que vous l'avez aimé. Nous allons donc faire une pause avec Elvis Presley, choisi par Tao.
Bonjour, Aujourd'hui, je vais vous parler de Burning Love. Burning Love est une chanson écrite par Dennis Lind. Elle est enregistrée pour la première fois par le chanteur de soul Arthur Alexander, qui l'inclut dans son album Arthur Alexander en 1972. La version la plus célèbre de Burning Love est sa reprise par Elvis Presley, sortie chez RCA Victor au mois d'août de la même année. Cette reprise se classe numéro 2 des ventes aux États-Unis, derrière Ding-a-ling de Chuck Berry. Elle constitue la dernière apparition d'Elvis Presley dans le top 10 américain. Elvis Aaron Presley est un chanteur et acteur américain né le 8 janvier 1935 à Tupelo dans le Mississippi et mort le 16 août 1977 à Memphis dans le Tennessee. Surnommé The King of the Rock and Roll, le roi du rock and roll, ou plus simplement The King, de par son immense succès international et pour son rôle dans l'expansion de ce style musical à l'échelle mondiale, il est l'une des icônes culturelles majeures du XXe siècle.
Merci Tao pour la musique entraînante que tu as choisie. C'était donc plusieurs chroniques passionnantes sur la science-fiction.
Nous allons donc passer par la partie dédiée au documentaire.
Dans cette partie, il y aura des volcans explosifs et fusifs aussi. Les fourmis, et nous allons écouter du The Queen et des mangas.
Léo présentera la première chronique qui aura comme sujet les volcans explosifs.
Bonjour, je m'appelle Léo Hilardeau et je vais vous parler des volcans explosifs. Les volcans explosifs les plus connus d'Europe se trouvent en Italie ou sur les îles grecques. En Italie, il y a l'Etna et le Vésuve. Aux îles grecques, il y a Milos, Nisiros, Pouros et Santorin. Date des explosions des volcans. Le Vésuve a explosé en 1944. Milos a explosé en 140. Pour l'Etna, figurez-vous qu'il explose très souvent et que la dernière date d'explosion était il y a 2 mois. Tourporos, c'est tout l'inverse de l'Etna, car il a explosé au temps du Pliocène, mais peut-être que vous ne savez pas ce que c'est que le Pliocène. Je vais vous expliquer. Le Pliocène est une ère qui a duré 2,744 millions d'années et qui dure entre 5,332 à 2,588, et le Pliocène est une époque géologique. Nicéros a explosé en 1888 et Santorin, lui, a explosé en 1950. Mais où se situent les volcans explosifs ? Les volcans explosifs se trouvent en bordure de certains continents. Plus généralement, ils se situent au-dessus des zones où la plaque océanique s'enfonce sous la plaque continentale, zone de subduction. Je pense que vous ne savez pas ce que veut dire zone de subduction, alors je vais vous expliquer. C'est une zone où deux plaques tectoniques se rentrent dedans, ce qui forme les volcans explosifs. Mais il faut deux plaques spécifiques, qui sont les plaques terrestres, qui se situent sous nos pieds, et les plaques océaniques, qui se situent sous l'eau. Et ce duo forme les volcans explosifs. Et voilà, chers auditeurs, j'ai terminé ma chronique sur les volcans explosifs.
Merci Léo, j'en ai appris pas mal grâce à ta chronique sur les volcans explosifs.
Nous allons donc passer à la chronique de Kylian sur cette fois les volcans effusifs.
Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler des volcans effusifs qui est notre sujet d'aujourd'hui. Bon reportage effusif. Comment fonctionne un volcan effusif ? Un volcan effusif se forme lorsque deux plaques tectoniques entrent en collision ou quand elles s'éloignent. Le magma remonte alors par des fissures dans la croûte terrestre. Quelles sont les caractéristiques d'un volcan effusif ? Une éruption effusive est aussi lavique, aussi appelée éruption de type hawaïenne, se caractérise par l'émission d'une lave particulièrement liquide d'une température de plus de 1200 degrés qui s'écoule en majeure partie à la surface d'un volcan en activité. Aussi gaffe aux dangers de certains volcans en éruption qui peut causer de graves dangers car des volcans en éruption de lave peuvent faire brûler des maisons et des plantations. Quelle est l'origine d'un volcan effusif ? On dit qu'un volcan effusif type hawaïenne lorsque le magma remonte sous forme de coulée de lave plus ou moins épaisse. C'est notamment le cas des éruptions hawaïennes de Kilauea et Mauna Loa. Une éruption explosive projette des matériaux solides ainsi que du gaz en grande quantité, comme ce que Léo vous a expliqué tout à l'heure. Quelle est la différence entre un volcan effusif et explosif ? Une éruption effusive est une éruption volcanique caractérisée par l'émission des laves fluides dont la majorité se répand à la surface d'un volcan. À l'opposé, un volcan explosif, principalement des lave fragmentées dans l'atmosphère, comme ce que Léo vous a très très bien expliqué tout à l'heure. Merci d'avoir écouté notre actif aujourd'hui. Et si j'ai choisi ce thème, c'est parce que les coulées de lave sont très très belles à voir.
Effectivement, cette coulée est magnifique. Je n'aimerais pas être dedans.
C'est vrai.
Vous êtes toujours sur Chanson Fessin Radio.
C'est donc le tour de la chronique de Romain qui va nous être exposée par Lautaro au sujet des fourmis et des atacéphalotes.
Aujourd'hui, je vais vous présenter une chronique écrite par Romain qui va vous parler d'une nouvelle espèce de fourmi tropicale. Bon reportage ! L'atacéphalote est une espèce de fourmi que l'on retrouve dans toute l'Amérique du Sud et aussi au Mexique. Cette espèce est aussi appelée fourmi coupeuse de feuilles. Pourquoi ? Parce que ces fourmis ont appris à faire de l'agriculture. Mais elles ne cultivent pas n'importe quoi. Un champignon nommé fungus qu'elles cultivent avec des feuilles. Quoi ? Oui, elles coupent des feuilles avec leurs solides mandibules. Puis d'autres fourmis de la même colonie les ramènent dans le nid, qui peut recouvrir 100 mètres carrés. Elles vont ensuite poser leurs feuilles récupérées juste avant sur le fungus qui va s'en nourrir. À quoi ça leur sert de cultiver ce fameux fungus ? Eh bien, elles s'en nourrissent. C'est d'ailleurs tout ce qu'elles mangent, mais ce n'est pas la seule particularité de cette espèce. Par exemple, il y a le polymorphisme. C'est la différence de taille entre les fourmis de la même colonie. Et pour dire une taille spécifique, on dit une caste. Chez cette espèce, il y a 9 castes différentes. Elles ont toutes une tâche propre à leur caste et ont chacun un rôle. Par exemple, la plus haute caste, la reine, qui peut mesurer jusqu'à 3 cm de long. Son rôle, c'est de pondre des œufs toute la journée. Il y a aussi une autre caste qui fait seulement 2 mm de long, qui s'occupe du nid. Cette chronique est finie, et j'espère que vous l'avez aimée, et à bientôt.
Oula, je n'aimerais pas la voir, celle-là. Nous en avons terminé avec la partie documentaire. Je vais donc présenter une pause musicale. Cette chanson s'appelle Bohemian Rhapsody et est du groupe Queen. Ce groupe est composé de Freddie Mercury, le chanteur, Brian May, le guitariste, John Deacon, le bassiste et Roger Taylor, le batteur. Bohemian Rhapsody a été écrite par le chanteur du groupe. Elle est particulière parce qu'elle a 5 parties assez différentes. On ne peut pas vraiment dire qu'elle est un refrain. Elle est sortie en 1975 dans l'album A Night at the Opera sur un single 45 tours. Un 45 tours, c'est un petit disque, mais plus grand qu'un CD, qu'on faisait tourner sur un tourne-disque dans les années 50 jusqu'aux années 90. Ils avaient un titre par face. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go, little high.
We'll be right back.
J'ai choisi cette chanson, déjà tout simplement parce que je la trouve belle, mais surtout qu'elle me donne de l'entrain, et comme je l'ai dit tout à l'heure, ça change au cours du morceau, et elle est particulièrement vivante.
Merci Camille, et bravo pour la musique. Bonjour Emma, je crois que tu es venue me parler de trucs là, tu sais, des machins.
Je suis de retour pour vous jouer un mauvais tour. Cette année encore, vous allez devoir endurer mes longs monologues littéraires contre votre gré. Et pour cette première émission, nous allons parler manga, et plus précisément shoujo. Ah là là, les shoujo, ce style de manga principalement destiné aux jeunes adolescentes. On y parle essentiellement d'histoires d'amour se déroulant au collège ou au lycée. Je ne suis d'habitude pas vraiment fan de ce genre, car je le trouve la plupart du temps extrêmement niais et superficiel. D'autant plus que le dessin est souvent beaucoup moins poussé que dans les shonen ou les seinen, avec une précision rediscutable et peu de décors. C'est pourquoi j'ai décidé de vous parler des rares shoujo que j'aime. Car oui, je viens de rabaisser ce style, mais j'en lis quand même. Ah, mais attention, je ne lis pas n'importe lesquels. Aujourd'hui, je vais vous présenter les pépites parmi la masse. Commençons tout de suite avec 100 jours avant ta mort. Oui, je sais, le titre donne pas une première impression extraordinaire, mais c'est vraiment un manga adorable. À l'heure où j'écris, 4 tomes écrits par Mugihara sont sortis en France. Pour ce qui est de l'histoire, on suit Taro, un jeune lycéen amoureux de sa meilleure amie depuis l'enfance. Un beau jour, il réussit enfin à lui faire sa déclaration. Suite à cela, Umi, l'amie en question, et lui se mettent en couple. Jusqu'ici, rien de particulièrement remarquable, c'est vrai. Mais le petit détail qui change tout, c'est le fait que Taro possède un pouvoir assez spécial. Quand il enlève ses lunettes, il peut voir le nombre de jours qu'il reste à vivre aux gens lorsque celui-ci est inférieur à 100. Et bien évidemment, la vie de sa chère Umi se trouve en danger. Sauf que contrairement aux autres personnes dont il a vu le nombre de temps de vie restant, le compte à rebours de Umi est variable. Il monte, descend, remonte, redescend. Enfin, je pense que vous avez saisi le concept. Bref, Taro se met en tête de sauver la vie de sa petite amie. Et alors, entouré de quelques autres personnes de confiance, ils font tout leur possible pour que la vie de la jeune fille ne soit plus en danger. J'ai beaucoup aimé ce manga, tout d'abord parce que le style est tout simplement adorable, sans non plus sombrer dans le stéréotype du genre. Il y a plein de scènes assez détaillées et les petites pages bonus rajoutent un peu de légèreté. En plus, l'évolution de la relation entre Taro et Umi est ultra romantique. Ici, pas de drama amoureux, juste deux adolescents qui vivent leur première relation. Passons maintenant au deuxième shoujo. Il s'agit de Orange, de Ichigo Takano, aux éditions Akata, édition qui, soit dit au passage, publie pas mal de shoujo vraiment intéressants. Nous sommes encore une fois au lycée avec pour héroïne cette fois-ci la jeune Nao. Elle vit entourée d'une joyeuse petite bande d'amis au tempérament aussi divers que complémentaire. Jusqu'ici rien d'anormal, jusqu'à l'arrivée de Kakeru. Ce nouvel élève un peu timide et renfermé va se retrouver inclus dans le groupe de Nao par un de ses potes. Peu à peu, Nao va inévitablement tomber amoureuse de lui. Encore une fois, une dimension un peu magique vient s'ajouter au scénario. Nao reçoit une lettre de son elle du futur, l'implorant de sauver Kakeru. En effet, on apprend que dans le futur, ce dernier s'est suicidé. Son L2, 10 ans après, est pris d'immenses regrets au point de tenter le tout pour le tout avec cette lettre. Au début incertaine, Nao du lycée se rend vite que ce mystérieux message semble dire vrai et se met à suivre autant que possible les conseils. Tout au long, le lecteur se retrouve pris entre ces deux temporalités, inquiet de l'avenir de Kakeru. Car oui, shoujo ne rime pas forcément avec happy end. Pour ma part, j'ai lâché quelques larmes sur ce manga émouvant qui retrace non pas seulement une histoire d'amour, mais également les tourments traversés par certains adolescents comme Kakeru. Bien sûr, je ne me risque pas à vous spoiler la fin, car vous manqueriez vraiment quelque chose en ne vivant pas ces moments touchants de tendresse tout en songeant aux doutes persistants de Kakeru. Pour ce qui est du dessin, encore une fois, nous sommes sur quelque chose de très mignon sans pour autant virer dans le grand yeux ridicule et robe froufrou. Les décors, parfois un peu vagues, mais l'ambiance de ce manga en 6 tomes flotte entre adorabilité et mélancolie, chose que j'apprécie particulièrement. Nous passons maintenant au dernier manga que j'ai sélectionné pour vous. Il s'agit de Sayonara Miniskirt de Aoi Makino. Malheureusement, de ce que je sais, le manga est à ce jour interrompu, mais nous pouvons tout de même profiter des deux premiers tomes publiés en France. Sayonara Miniskirt est un titre qui en dit long. Sayonara signifie au revoir en japonais et Miniskirt vient de l'anglais mini-jupe. Nous suivons donc une jeune fille au lycée encore une fois. Elle est la seule de son établissement à porter un pantalon, les filles étant autorisées à porter la jupe ou le pantalon au choix. Sa coupe à la garçonne et son attitude froide font tiquer au premier abord. Revenons quelques mois avant son entrée dans ce lycée. Encore que nous, encore connue sous le pseudonyme de Karen Amamiya, Nina Kamiyama de son vrai nom, est le membre clé d'un groupe d'idoles ultra populaire au Japon. Mais voilà, bien évidemment, sa belle petite vie de rêve, ou pas d'ailleurs, va basculer le jour où, lors d'une rencontre avec les fans, un détraqué la blesse au couteau. Son agresseur s'enfuit et n'est pas retrouvé. Profondément choquée et traumatisée de la gente masculine depuis cet événement, la chanteuse décide d'abandonner son métier et de revenir à une vie plus banale pour une fille de son âge. Comme vous pouvez le deviner si vous avez un peu suivi ma chronique, qui dit shoujo dit amour et qui dit relation amoureuse dit rencontre. Un garçon pas comme les autres, moins effrayant, moins impressionnant aux yeux de Nina, va bien vite entrer dans sa vie. Peu à peu, elle va bien sûr tout faire son possible pour surmonter son traumatisme. Mais, car il y a toujours un mais, le passé de la jeune fille va vite revenir la hanter. La tension et le stress quant à l'identité de son agresseur planent sur le récit et viennent l'assombrir tout en le crédibilisant. Ce que j'ai beaucoup apprécié dans ce shoujo, ce sont les sujets sociétaux qui y sont abordés. On retrouve par exemple le sujet des abus faits aux femmes ou encore les débats sur les tenues appropriées ou non dans la rue et en cours pour les jeunes filles. De plus, certains éléments réels ont été glissés avec brio dans le récit, tels que la création de wagons réservés aux personnes de sexe féminin dans les trains au Japon. Ça aide à apporter un avis nuancé sur tous ces thèmes tout en conservant le fond classique de la romance et du school life. Le dessin est agréable, avec des tenues impressionnantes de détails et des décors qui viennent dynamiser le tout. Les personnages très intéressants, certains détestables, et pourtant ayant leur propre vision des choses. Aucun avis n'est écarté ou dénigré, et j'ai adoré ça. Voilà pour le dernier manga. Avec ça, j'espère avoir su ravir votre cœur et réchauffer un petit peu votre début de printemps, fin d'hiver, avec ces trois shoujo, ma foi bien agréables à lire, installés sous un plaid.
Emma Manga, vous êtes toujours sur Chanson fait ça radio. Nous en avons terminé avec cette émission. Je l'ai trouvée très courte. Maintenant, merci à ceux qui écoutent. Merci aussi aux chroniqueurs et à tous ceux qui nous ont aidés à diffuser notre radio. Au revoir.
Vous avez bel et bien écouté Chanson pour sa radio, une émission réalisée par les élèves du Collège de Chanson. On vous retrouve très vite pour une nouvelle émission.